Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Mobilisation nationale des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Hier, en France, ils demandent un véritable statut et une revalorisation de leur métier. Nous écouterons la vice-présidente de l'association Tous pour l'inclusion, Marion Aubry. Cette occupation de la Palestine est préjudiciable non seulement au droit international, à la raison, mais aussi au combat pour l'humanité. Des mots de l'ex-député européen éditorialiste à l'Humanité, Patrick Le Yarrick, vous l'entendrez. Le 22e anniversaire de la mort du président tunisien Habib Bourguiba, le chef de l'État Kais Saied s'est rendu ce matin au mausolée de l'ancien président à Monastir. Le Maroc connaît sa plus grosse sécheresse depuis 1981. Malgré des pluies tardives au mois de mars, les grands barrages ne se sont pas rechargés. Les Occidentaux vont durcir les sanctions contre la Russie après le massacre de Boutcha au nord-ouest de Kiev. La Commission européenne a proposé aux 27 pays membres d'arrêter leurs achats de charbon russe et de fermer les ports européens aux bateaux russes. C'était hier en France, une mobilisation nationale des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Mobilisation quelques jours après la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, samedi dernier. Regard sur la scolarisation des enfants autistes. Entretien avec la vice-présidente de l'association Tous pour l'inclusion, Marion Aubry.
Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de plus en plus d'accompagnants des élèves en situation de handicap. Pour autant, le retour qu'on a du terrain, c'est que la situation ne s'améliore pas, puisqu'en fait, on constate qu'il y a de plus en plus d'élèves qui ont un besoin d'accompagnement, mais que l'augmentation du nombre d'accompagnants des élèves en situation de handicap ne se fait pas à proportion des besoins, et que finalement, les élèves autistes, entre autres, mais aussi porteurs d'autres handicaps, ont de moins en moins d'heures d'accompagnement par ces fameuses AESH, donc accompagnants des élèves en situation de handicap. On observe aussi que avec ce phénomène de finalement de massification de l'accompagnement, il y a de moins en moins d'attention qui est portée à la continuité de l'accompagnement, avec des élèves qui, sur leur temps de scolarisation, sont parfois accompagnés par deux, trois AESH différentes qui, d'une année sur l'autre, ont changé d'AESH, voire même parfois en cours d'année. Et donc, ça se détériore quand même pas mal les conditions de scolarisation des élèves autistes, même si en apparence, il y aurait de plus en plus d'enfants autistes qui seraient scolarisés dans les établissements ordinaires. Notre impression, c'est que c'est pas dans des bonnes conditions d'accompagnement.
Et quel est le statut aujourd'hui des accompagnants d'élèves en situation de handicap ?
Alors, ce sont des personnes qui sont dans une situation assez précaire, en fait, puisque elles sont recrutées en CDD, donc des CDD de 3 ans qui sont renouvelables à nouveau 3 ans, puis ensuite elles peuvent prétendre à un CDI, donc pas un statut de fonctionnaire, et puis surtout elles sont à temps partiel, puisqu'en général leur temps de travail ne va pas au-delà du temps scolaire, donc dans une école primaire, ça va être 24 heures par semaine. Elles sont payées au SMIC, donc ça fait vraiment des tout petits niveaux de rémunération, hein, aux alentours de 800 euros par mois. Et donc, du coup, ça entraîne aussi d'énormes difficultés de recrutement. Et puis, c'est des personnes aussi qui ont peu de formation, en fait. Du coup, ça ne leur rend pas la tâche très, très facile. Et puis, même quand elles se forment, finalement, ce mode de gestion où on peut les réaffecter d'un élève à l'autre au gré des besoins, finalement, elles ont beaucoup de mal à capitaliser sur la formation qu'elles peuvent recevoir quand elles font de l'auto-formation pour notamment savoir accompagner un enfant porteur de tel ou tel type de handicap. C'est compliqué. On sait que notamment concernant l'autisme, il faut mieux quand même avoir un bon niveau de formation pour être capable d'accompagner un élève autiste. Donc c'est vrai que le statut actuel des AESH ne permet pas forcément d'assurer une bonne qualité d'accompagnement.
Et justement, comment se déroule cette accompagnement. L'accompagnant est aux côtés de l'élève pendant les cours. Comment est-ce qu'il l'aide? Comment ça se passe?
Alors, l'accompagnant est aux côtés de l'élève pendant les cours, mais pas forcément pendant la totalité des cours. La maison départementale des personnes handicapées décide ou non si l'élève autiste ou handicapé a droit à un accompagnement individuel ou s'il a droit à un accompagnement dit mutualisé. Donc un accompagnement mutualisé, ça veut dire que l'AESH se partagera entre plusieurs élèves. Et donc ça veut dire que pendant certains cours, l'élève sera accompagné et puis à d'autres moments, il devra se débrouiller tout seul. Donc l'accompagnement est souvent partiel.
Et avec les autres élèves, le regard des autres élèves, c'est aussi un élément important.
Le regard des autres élèves, c'est sûrement la première bonne raison pour laquelle il faut à tout prix tendre vers davantage d'inclusion, parce que finalement, on observe que la bienveillance des enfants et des futurs adultes envers les personnes handicapées, elle se développe quand ils sont tout petits et justement parce que ils sont scolarisés aux côtés d'élèves différents d'eux. Et donc nous, ce qu'on observe, c'est que les autres élèves sont généralement très très bienveillants envers les élèves autistes et porteurs d'autres handicaps. Donc ça, c'est le côté positif de l'inclusion malgré toutes ses faiblesses.
Les parents d'élèves autistes, ils sont suffisamment aidés aujourd'hui?
Non, pas suffisamment, parce que en plus des besoins que leurs enfants peuvent avoir dans leur scolarisation, besoins qui ne sont pas, comme on l'a vu, entièrement satisfaits, il y a tout le besoin d'accompagnement que les parents peuvent avoir à la maison pour être capables de s'adapter aux différents défis qu'ils peuvent avoir à relever pour élever leur enfant autiste. Donc il existe des services qui peuvent accompagner, notamment des services qui s'appellent des CESAD, mais il n'y en a pas suffisamment, et à nouveau ça va être des services qui vont apporter un accompagnement qui en termes d'intensité ne sera pas forcément suffisant pour tous les parents. Et puis y a pas mal de parents qui sont un peu laissés livrés à eux-mêmes pour apprendre comment s'y prendre avec un enfant autiste. Et eux aussi ont besoin de formation, de guidance parentale. Et ils l'ont pas toujours, même si il y a des efforts d'ensemble qui sont faits, des services qui sont créés, de plus en plus de formations qui se développent. Ça, je pense que c'est quand même un point positif, c'est qu'il y a eu vraiment un vrai effort de formation porté par des financements de la CNSA, porté par les centres ressources autisme. Donc ça, je pense que quand même, au cours des dernières années, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Mais du coup, les parents maintenant formés mesurent d'autant plus le gouffre qu'il y a entre ce dont leur enfant a besoin en termes d'accompagnement et ce qu'on est... que la société aujourd'hui leur accorde.
Et sur ce sujet, sur cette spécificité de l'autisme, avez-vous eu connaissance de propositions intéressantes de la part de candidats à la présidentielle?
Le sujet du handicap était quand même pas mal passé sous silence, on va dire, à part les déclarations fracassantes d'un candidat qui allait plutôt dans le sens d'une régression. Mais c'est vrai que malheureusement, on voit bien que la campagne cette année quand même été très concentré sur un certain nombre de sujets chauds d'actualité, et ces sujets sociétaux de fond ont été très peu pris en compte par les candidats. Donc, les quelques lignes qu'il peut y avoir dans les programmes sont vraiment très réduites, et puis on entend un peu tout et son contraire. On entend qu'il faut plus d'inclusion, mais il faut aussi plus d'institutions. Donc, en fait, on a du mal à savoir finalement quelle est la réelle conviction des candidats sur ces sujets.
La vice-présidente de l'association Tous pour l'inclusion, Marion Aubry. Le 22e anniversaire de la mort du président tunisien Habib Bourguiba, une cérémonie officielle a été organisée. À cette occasion, le chef de l'État Kais Saied s'est rendu ce matin au mausolée de l'ancien président à Monastir. La Tunisie, qui est plongée dans une crise politique en juillet dernier, Kais Saied a suspendu le Parlement avant de le dissoudre la semaine dernière, et la France a fait part hier de sa préoccupation s'agissant des derniers développements en Tunisie. Le Maroc connaît un Malgré des pluies tardives au mois de mars, les grands barrages ne se sont pas rechargés. Ils sont vides à plus de 95%. Selon le ministère de l'Agriculture, la sécheresse devrait s'intensifier progressivement au Maroc jusqu'en 2050 sous l'effet d'une baisse de la pluviométrie et d'une augmentation des températures. Elles sont soupçonnées d'être impliquées dans un réseau criminel de trafic international, d'organes et de drogue. La police marocaine a placé en garde à vue 4 personnes opérant notamment entre le Maroc et la Turquie. L'enquête a été déclenchée à la suite d'une annonce publiée sur les réseaux sociaux proposant des prélèvements de reins dans des cliniques privées à l'étranger contre d'importantes sommes d'argent en devise. Le ministre israélien de la Défense s'est entretenu hier soir avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Il a transmis ses vœux aux Palestiniens à l'occasion du Ramadan, selon un communiqué de son bureau. Il a également salué la condamnation par Mahmoud Abbas de l'attaque près de Tel Aviv qui a tué 5 personnes le 22 mars dernier. Cela dans un contexte d'armée. Cette occupation de la Palestine est préjudiciable non seulement au droit international, à la raison, mais aussi au combat pour l'humanité, selon les mots de l'ex-député européen et éditorialiste à l'Humanité, Patrick Le Yarrick.
Il y a une tendance, depuis des mois et des mois maintenant, au blocage de la situation et à une crispation de la situation. Il faudrait qu'une discussion un peu plus approfondie ait lieu aujourd'hui et des pressions sur le nouveau gouvernement israélien pour commencer à débloquer la situation.
Avec cette accentuation de la colonisation qui, vous le rappelez, est contraire au droit international.
Tout à fait, on a colonisation qui continue, destruction de maisons dans Jérusalem, des prisonniers, de plus en plus de prisonniers, dont d'ailleurs notre compatriote Salah a mouru sans raison. On voit bien que cette occupation de la Palestine aujourd'hui est préjudiciable non seulement au droit international, à la raison, mais aussi au combat pour l'humanité. C'est donc autre chose qu'il faudrait faire. Au moment où on condamne tous la tentative d'occupation de l'Ukraine par Poutine, où Israël prétend vouloir jouer un rôle dans le règlement de cette situation, il faudrait qu'elle regarde à sa porte en elle-même cessant cette occupation de la Palestine.
Elle n'est pas suffisamment mise en lumière aujourd'hui, cette situation ?
Non, l'histoire qui s'est passée toutes ces dernières années avec les guerres en Syrie, en Libye, en Irak, l'ébullition du Proche et du Moyen-Orient a mis de côté les enjeux palestiniens, la pandémie également. Mais la guerre aujourd'hui de Poutine contre le peuple ukrainien participe aussi de cette sorte d'effacement du droit international concernant la Palestine.
Et justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales revendications aujourd'hui de l'autorité palestinienne notamment ?
Il faut revenir à la table de négociation, donc il faut sans doute des médiateurs, mais sur la base des territoires, des frontières de 67, la libération des prisonniers politiques, la sortie des colonies, l'arrêt en tout cas de la colonisation, la destruction des maisons à Jérusalem et la reconnaissance de la citoyenneté pour tous les habitants de Jérusalem. Là, il y a une multitude de demandes là qu'il faudrait satisfaire et sans doute le partage de la sécurité qui est très discutable parce que je sais qu'il y a des appréciations différentes sur à la fois la sécurité israélienne, mais aussi sur la sécurité palestinienne. Mais au moins, si on avançait sur ces objets-là, je crois qu'on ferait un pas en avant dans l'ouverture d'une négociation, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de négociation. Il y a beaucoup de discours, mais pendant ces discours, l'occupation israélienne, elle est maintenue et elle se développe de plus en plus.
Et est-ce qu'il y a, selon vous, une volonté de négociation ? Qu'est-ce qui bloque ?
Il n'y a pas de volonté de négociation. En vérité, on laisse Israël faire et les Palestiniens sont mis de côté. Les accords faits entre Israël, un certain nombre de pays arabes, même depuis le début de la guerre en Ukraine, à propos, j'imagine, de l'énergie, ne contribue pas à solidariser le mouvement arabe. Mais l'attitude également de la Russie vis-à-vis d'Israël depuis des mois ne contribue pas non plus à placer la question palestinienne au centre de l'agenda géopolitique. Donc il y a une situation très difficile pour les Palestiniens et je crois que on devrait bien plus faire entendre nos voix en même temps que on fasse entendre nos voix pour la paix dans le monde entier, notamment en Ukraine, mais la question palestinienne elle est posée, la paix au Yémen elle continue d'être posée, la situation en Afghanistan continue d'être posée, mais vous savez bien comment ça se passe aujourd'hui, le système médiatique global évidemment se concentre sur une actualité et change d'actualité. Et malheureusement, dans cette actualité-là, la question palestinienne est mise très loin derrière, elle est mise au rebut, alors qu'elle est partie intégrante des questions de géopolitique mondiale.
Patrick Le Yarrick, ancien député européen, éditorialiste à l'Humanité. Les Occidentaux vont durcir les sanctions contre la Russie après le massacre de Boutcha au nord-ouest de Kiev. La Commission européenne a proposé aux 27 pays membres d'arrêter leurs achats de charbon russe et de fermer les ports européens aux bateaux russes. Ces propositions doivent être discutées aujourd'hui par les représentants des pays de l'Union européenne. Parallèlement, la Turquie a réclamé aujourd'hui une enquête indépendante sur les cadavres retrouvés à Boutcha au nord-ouest de Kiev. Les images du massacre qui ont été publiées dans la presse depuis diverses régions de Boutcha et Irpin près de Kiev sont choquantes et tristes pour l'humanité, écrit le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué. Le président ukrainien a demandé hier à l'ONU d'agir immédiatement contre la Russie au regard, selon ses mots, de ses crimes de guerre. Il demande notamment son exclusion du Conseil de sécurité. Washington, de son côté, a annoncé débloquer une aide sécuritaire supplémentaire à l'Ukraine, portant le total à 1,7 milliard de dollars. Enfin, en France, le parquet national financier a annoncé en fin de matinée l'ouverture d'une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Une enquête après le rapport du Sénat sur le recours au cabinet de conseil privé par les administrations publiques. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est midi 17. À midi 30, votre journal en langue arabe présenté par Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 18h pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.